Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Pobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce jeudi, une journée noire au Tchad. Une cinquantaine de morts, des centaines de blessés ont été enregistrés dans des manifestations visant à dénoncer la prolongation de la transition. Et puis le Burkina Faso commémore aujourd'hui la journée nationale de la liberté de la presse. Vu le contexte national que traverse le pays, le thème retenu est régime de transition, sauvegarder les libertés individuelles et collectives. Et comme invité, nous recevons Sadibou Mwarong. Il est le responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. En sport, on parlera de la Ligue des champions africains. Le RCK est éliminé par l'AS Vita Club de la RDC au tir au but ce jeudi. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour cette édition. Hors de chez nous au Tchad, de violents heurts ont eu lieu à N'Djamena et Mundu, la deuxième ville du pays, entre les forces de l'ordre et les manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Eh bien, ce jeudi, le Premier ministre décrète le couvre-feu, faisant état d'une cinquantaine de morts et de plusieurs centaines de blessés. Que s'est-il passé ce jeudi au Tchad? Retour sur cette chaude journée dans ce récit de Bernabé Cabri.
Des nuages de fumée noire étaient visibles et des tirs de gaz lacrymogènes se faisaient régulièrement entendre. Des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers de la ville de N'Djamena et des pneus brûlés sur les principaux axes routiers afin d'obstruer la circulation, selon plusieurs médias locaux et étrangers. Des centaines de personnes étaient réunies jeudi à N'Djamena à l'appel de l'opposition contre le maintien au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno. Dans la capitale tchadienne, le bilan est passé à une cinquantaine de personnes tuées en fin de soirée dans des affrontements entre policiers et manifestants. Selon le Premier ministre Saleh Kebzabo, une dizaine de victimes sont des membres des forces de sécurité. Paris a condamné dans la foulée ces violences avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay précise que la France ne joue aucun rôle dans ces événements qui relèvent strictement de la politique intérieure du Tchad. L'ONU a également déploré les violences et demandé l'ouverture d'une enquête sur les décès. Les violations signalées doivent faire l'objet d'une enquête, a précisé dans un tweet le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'Union africaine a condamné la répression des manifestations. Sur son compte Twitter, Moussa Faki Mahamat a appelé les partis à respecter la vie humaine et les biens et à privilégier les moyens pacifiques pour surmonter la crise. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition au qui devait s'achever ce jeudi. Mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel le fils de l'ancien président Idriss Déby pourra se présenter.
Le Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo a fait le point lors d'une conférence de presse des propos recueillis par Denis Zungrana sur Tchad Info.
Dès lors que le dialogue national inclusif a été décrété souverain et qu'il s'est ensuite lui-même proclamé souverain, il était fondé à prendre toutes les décisions sur l'avenir du pays, notamment la durée de la transition, le régime des éligibilités et toutes les décisions importantes comme la forme de l'État qui fera l'objet d'un référendum, ainsi qu'une nouvelle constitution. Depuis quelques jours, en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, ils ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur leur marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande. Le ministre de la Sécurité publique l'a évidemment interdit et malgré cela, ils se sont résolus à organiser leur projet diabolique et meurtrier. Certains disposaient même d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Mundu, Doba et Koumra. Des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de M. Succès Massra et de M. Yaya Tillo.
Le chef du gouvernement tchadien a décrété un couvre-feu jusqu'au rétablissement total de l'ordre. Il promet également des poursuites suite aux morts enregistrées. Saleh Kebzabo.
Le gouvernement de la République ne laissera plus que des individus de ce genre mettre à mal la sécurité des citoyens au point de porter atteinte à leur vie ou qu'ils portent atteinte aux institutions de la République. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. La suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, notamment des transformateurs, le Parti Socialiste Sans Frontières, Alta Kadoum et Wakitama, en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics et privés.
En Guinée également, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, avait appelé à manifester ce jeudi dans le Grand Conakry. L'organisation de la société civile dénonce la gestion de la transition par la junte au pouvoir. Des violences ont éclaté dès mercredi soir. Des affrontements opposaient une partie de la nuit des groupes de jeunes et les forces de sécurité qui étaient déployés en grand nombre ce matin sur l'axe Le Prince, mais aussi à d'autres endroits stratégiques de la capitale, comme l'autoroute Fidel Castro, qui traverse la banlieue sud, et notamment le rond-point Tannery, qui devrait être le point de départ de cette marche voulue par le FNDC. Aucun manifestant n'a été aperçu au point de rendez-vous qui était sous bonne garde. Un canot à eau et plusieurs pick-up des forces de l'ordre ont été garés à cet endroit pour empêcher le regroupement des militants. Côté bilan, le FNDC a fait état de 5 blessés par balle, dont un dans un état grave. Ce dernier aurait été atteint à l'abdomen dans le quartier Wanindara, situé sur l'axe. Le chiffre avancé par le FNDC ne peut être confirmé pour l'instant, estime le porte-parole du ministère de la Sécurité. Retour au Burkina Faso, le pays commémore aujourd'hui la Journée nationale de la liberté de la presse. Les activités de la commémoration ont été lancées ce jeudi au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Placé sous le thème « Régime de transition », sauvegarder les libertés individuelles et collectives. Cette célébration est un lieu de partage et de rétrospective des acteurs burkinabés de la liberté de presse. Je vous propose le compte-rendu signé de Yaya Diomandé.
La liberté de la presse est vivement ébranlée au Burkina avec la crise sécuritaire et encore plus avec l'avènement du MPSR. C'est du moins sur le constat fait en cette journée commémorative par les organisations de presse du Burkina. Sié Kambou est un journaliste.
Sérieusement, nous journalistes aujourd'hui, nous sommes en danger. Vous avez vu tout récemment Alain du groupe Omega Media qui en tout cas est en danger aujourd'hui et même donc toute la structure. Et donc, pour dire que c'est un message qui revient à chaque journaliste, donc on prend conscience que nous sommes dans une période où on n'est pas en sécurité et les autorités en même temps aussi sont interpellées.
Contrairement à l'idée que certains se font sur le fait que la presse représente un handicap dans la lutte contre le terrorisme, les acteurs de la liberté de la presse refutent. Guézouma Sanogo, président de l'Association des journalistes du Burkina.
C'est pas vrai. La presse, dans cette lutte, est un allié incontournable. Et il est temps que les autorités prennent conscience de la force de la presse dans ce contexte précis qu'il y a. Parce qu'il faut donner l'information aux gens. Il faut dire la réalité, la situation aux gens.
Le rapport de l'état de la liberté de presse au Burkina a été présenté lors de cette cérémonie de lancement et il en ressort une nette dégradation de la latitude du quatrième pouvoir à exercer son métier. Dans l'espoir d'une amélioration de cette situation, les acteurs de presse tiennent ce 20 octobre plusieurs activités, notamment un panel et une cérémonie de récompense de la meilleure journaliste du Burkina.
Allons à présent à la découverte d'une lampe, symbole d'espérance, celle du Centre national de presse Norbert Zongo. Si vous êtes déjà posé la question, que peut-elle bien faire là? Eh bien, vous aurez la réponse dans ce reportage. Depuis le 3 mai 1999, elle est allumée et demande que justice soit faite sur la mort tragique du célèbre journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo, assassiné en 1998. Pour mieux comprendre son histoire, Omega Media vous plonge ce jeudi à l'intérieur du Centre national de presse qui porte le nom du journaliste. Le reportage est signé Moumouni Tamboura.
Une lame tempête pour exiger la lumière sur la mort tragique du journaliste Norbert Zongo. L'idée a de quoi interroger. À l'intérieur du verre rayonne une flamme dont l'histoire remonte au 3 mai 1999. Ce jour-là, le monde entier célébrait la Journée internationale de la liberté de la presse. Au Burkina, cela faisait près de 5 mois que la presse pleurait la disparition tragique du journaliste Norbert Zongo. Et cette flamme représente l'espoir de voir la lumière jaillir sur les circonstances de sa mort. Initialement, elle ne devait durer que 4 jours. Malheureusement, elle est restée allumée pendant ces 24 dernières années à cause d'un espoir jusqu'ici resté vain. Abdoulaye Diallo, coordonnateur du centre.
La commission d'enquête devait présenter son rapport sur l'enquête concernant l'assassinat de Norbert Zongo le 7 mai. Et donc nous on a allumé cette lampe-là le 3 mai avec l'espoir que le 7 mai, quand la commission d'enquête va rendre ses résultats, on va éteindre la lampe parce que la lumière aurait été faite sur l'assassinat de Norbert Zongo. Donc initialement, elle était allumée pour durer 4 jours. Pour que le jour où la commission d'enquête indépendante rend son rapport, on allait avoir la lumière sur l'assassinat de Norbert Zongo et donc on éteignait la lampe, on organisait une cérémonie pour éteindre la lampe. Mais je trouve que vous avez tout suivi, le rapport a été produit, mais le rapport n'a pas permis de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Donc les journalistes ont décidé de garder cette lumière-là allumée. Donc cette lampe est allumée depuis le 3 mai 1999 pour montrer la volonté des journalistes, des hommes et femmes de médias que la justice soit rendue à Norbert Zongo.
Justice, liberté d'expression et d'opinion sont donc les raisons d'être de cette lampe. Elle souligne aussi les défis auxquels fait face la presse burkinabé. Mais au-delà du symbole, pour une lampe tempête, rester allumée durant 24 ans relève plus du mythe. Abdoulaye Diallo.
C'est pas de la magie. C'est une lampe, elle fonctionne, il faut la faire fonctionner. Quand la mèche finit, il faut changer. Quand le pétrole finit, il faut le remplacer. Il fut un moment où il y avait une crise, il n'y avait plus de pétrole. Et donc on a remplacé par une lampe solaire. Le temps qu'on a repris encore avec le pétrole, parce que l'idée, il faut que la flamme brûle pour montrer qu'on tient à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat de Norbert Zongo.
La Journée nationale de la liberté de la presse est une initiative du journaliste Norbert Zongo, dont le centre de presse porte aujourd'hui le nom. Il était le conférencier de sa première édition le 20 octobre 1998. À travers cette lampe, le CNPNZ interpelle les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les acteurs politiques ainsi que les institutions nationales sur l'impératif de renforcer la liberté de la presse et d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. En attendant, cette flamme restera allumée tout comme celle du combat pour la lumière dans le dossier Norbert Zongo.
Parlons toujours de liberté de la presse qui se penche justement cette année sur les sauvegardes des libertés individuelles et collectives. À l'occasion, le CSC apporte son soutien à Omega Media. En effet, une délégation du Conseil supérieur de la communication conduite par son premier responsable est venue témoigner son soutien et sa solidarité à Omega Media et à l'ensemble de son personnel victime de menaces proférées dans des documents sonores et relayés sur les réseaux sociaux. Selon le président du CSC, son institution, de par sa mission, est touchée par ce qui arrive à Omega, d'où la visite dans les locaux du groupe de presse ce jeudi. Ce n'est pas Omega qui est visé, c'est la liberté de la presse qui est menacée. C'est le journalisme qui est en danger, a lancé Abdul Aziz Bamogo, avant d'inviter les journalistes à jouer pleinement leur partition et en ayant à l'esprit le respect des règles et de déontologie qui encadrent le métier de journalisme. Et puis, à l'occasion de cette journée de la liberté de la presse, nous recevons pour vous comme invité Sadibou Marong. Il est le responsable du Bureau Afrique subsaharienne de RSF, Reporters sans frontières. Interview à suivre à la suite de ce journal. En sécurité au Burkina Faso, des individus armés non identifiés ont fait incursion dans l'après-midi du lundi à Yangdin, dans le sud-est, selon des informations concordantes parvenues à Omega Media. Les assaillants, selon les témoignages recueillis, sont arrivés dans le village aux environs de 17 heures. Ils ont toujours, selon les sources, fait des prêches, effectué des tirs en l'air avant de se fondre dans la nature. Cette présence d'hommes armés dans cette localité de la province de Bulgou n'est pas un fait inédit. Le 12 janvier 2022, une quarantaine d'hommes armés avaient fait des prêches sur la place du marché de Yangdin, située sur la route nationale numéro 7. La localité est à 15 km de Bitou sur l'axe Tenko Dugo Sankansi, un axe stratégique majeur pour la mobilité et les échanges entre le Togo et le Burkina Faso, qui semble être désormais dans le viseur des groupes armés terroristes. Et puis on parle de... Et puis le ministère en charge de l'éducation nationale a célébré ce jeudi la journée internationale de l'adolescent à Ouagadougou. Venus de différents établissements scolaires de la capitale, des centaines d'élèves ont participé à cette cérémonie de lancement. Première du genre au Burkina, cette journée répond à la nécessité de continuer l'éducation au-delà des classes pour l'épanouissement des jeunes. Des détails dans ce compte-rendu de Jacob Compaoré.
Technologie de l'information et de la communication et promotion de la santé des adolescents dans un contexte de crise humanitaire, c'est sous ce thème que les élèves issus de plusieurs établissements scolaires de la capitale ont commémoré la Journée internationale de l'adolescent. Les jeunes de 10 à 19 ans constituent la tranche vulnérable, exposée aux maladies et à l'addiction de l'usage du téléphone portable. Pour le représentant du secrétaire général du ministère de l'Éducation, il est donc du devoir du ministère d'accompagner ces jeunes au regard des problématiques qu'ils rencontrent dans leur milieu de vie. Boubacar Ouidraogo.
Vous savez que cette tranche d'âge est la plus exposée aux maladies et aux addictions de l'utilisation du téléphone. Cette génération qu'on appelle génération tête baissée doit être conscientisée parce que la mauvaise utilisation du téléphone peut compromettre les résultats scolaires.
Au cours de cette journée, la marraine de l'activité n'a pas manqué d'interpeller les parents à mettre l'accent sur la sensibilisation des adolescents à l'utilisation des TIC et la gestion de la santé sexuelle. Professeur Diaraye.
Chacun de son côté, que ce soit les éducateurs, que ce soit les personnels de santé, que ce soit entre les parents. Et comme je l'ai dit, tout commence déjà dans la famille. Il ne faut pas que nous abandonnons nos valeurs familiales, nos valeurs sociales, qui étaient le fondement en tout cas d'une bonne éducation. Dans le temps, il faut qu'on aille vers ça. Il faut que les adolescents écoutent.
Plusieurs activités ont été au menu de cette journée de l'adolescent. Il s'agit entre autres d'une projection de films, des conférences sur l'utilisation des TIC, la gestion de la santé sexuelle et des expositions.
Omega Sport.
Ligue de champions africaine, le RCK éliminé par l'AS Vita Club de la RDC au tir au but ce jeudi. Pour en parler, je reçois pour vous Bernabé Cabré. Bernabé Cabré, bonsoir.
Et bonsoir Alinda et bonsoir aux auditeurs de Radio Omega.
Eh bien, que peut-on retenir de ce match?
Le RCK ne sera pas le premier club burkinabé à atteindre la phase de poule de la Ligue des champions, du moins pas pour cette année, puisque les Faucons du Kadiogo ont été éliminés cet après-midi en match retour du deuxième tour éliminatoire par les Congolais de l'AS Vita Club au stade des Martyrs de Kinshasa. Le match aller s'était soldé sur un score de parité 0-0. Cet après-midi, le RCK a tenu tête aux Congolais 0-0 à l'issue des 90 minutes et le règlement prévoit directement la séance des tirs au but, pas de prolongation. Et à ce jeu, ce sont les Congolais qui se sont montrés plus adroits en réussissant 4 tirs contre 3 pour les Burkinabés. Deux tireurs du Rai Club du Kadiogo ont raté. Le premier a vu son tir repoussé par le portier de l'AS Vita Club. Le deuxième l'a carrément mis sur le montant. Du côté du RCK, Babayoure Sawadgo a sorti le grand jeu pour enlever le premier tir de l'AS Vita Club, mais il n'a pas eu assez de réussite lors pour les prochains tirs. C'est donc l'AS Vita Club qui se qualifiait, qui sera le seul représentant de la RDC en phase de poule, puisque le tout puissant Mazembe a été éliminé par un club soudanais. Une grosse désillusion donc pour le tout puissant Mazembe, qui est considéré comme le plus grand club congolais de tous les temps. Et avec cette qualification de l'AS Vita Club, on connaît tous les 16 équipes qualifiées pour la phase de poule. On peut citer c'était le Al Ahly d'Égypte, le Al Hilal et le Al Merrekh du Soudan, Petro Atlético d'Angola, le Coton Sport de Garoua du Cameroun, le CR Belouizdad d'Algérie, l'Espérance de Tunis, la JS Kabylie d'Algérie des Burkinabés Zakaria Sanogo et Mohamed Lamine Ouattara, le Oroya de Conakry de Dramani Niakhamé au Kansai à Mandela, et sans oublier bien sûr le club du Zamalek d'Égypte, les Vipers de l'Ouganda et le tenant du titre le Waka de Casablanca. Mais ce n'est pas fini. Pour le RCK, certes éliminé en Ligue des Champions, mais pour s'être qualifié au deuxième tour de la Ligue des Champions, le RCK est automatiquement reversé en Coupe de la Confédération et a encore une chance de jouer une phase de poule, mais cette fois-ci la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Mais pour y arriver, il faudrait éliminer un autre club congolais. Il s'agit du FC Saint-Lipopo-Éloi. C'est un club congolais, mais basé dans la ville de Lubumbashi. Le match aller va se jouer une fois de plus à Cotonou, puisque le Burkina n'a pas de stade homologué. Et le match retour, ce sera à Lubumbashi dans les jours à venir.
Merci à vous, Bernabé Cavré, pour ce beau récit. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté, à la retransmission Facebook Charles Dam. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Sadibou Marong, bonjour.
Bonjour.
Le 3 mai dernier, commémoration de la liberté de la presse à travers le monde, RSF, Reporters sans frontières, révélait que le Burkina Faso perd 4 places et est classé 41e sur 181 pays. Quels sont les facteurs qui expliquent cette régression?
Il y a l'indicateur de contexte politique, le cadre légal, les contextes économiques, socioculturels et même des questions de sécurité. Il y avait au moins 2 journalistes, dont un journaliste d'un média international qui avait été agressé. Il y a aussi cette incertitude liée au coup d'État. Mais il y avait surtout la mort de 2 journalistes espagnols et des reporters de guerre lors d'un reportage dans l'Est. Ça, c'était entre 2021 et 2022. Donc, il y a le contexte sécuritaire qui est très fragile, qui fait que l'accès à l'information, notamment dans les zones difficiles, qui est assez problématique aussi. Depuis le mois de mai, il y a eu 4 journalistes dont même Nab Newton Ahmed Paris, Bassiri Ouattara, qui était correspondant de l'Express du Faso à Banfora, qui avait fait l'objet de menaces. Fanny Naro Cabré a été expulsée d'une réunion publique par un activiste Kémi Séba. Les anciennes autorités militaires qui avaient des velléités de caporalisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui est le régulateur des médias, les radios communautaires ont été attaquées, des incertitudes, quoi.
Alors, à travers ces facteurs que vous énumériez, est-ce que le libre exercice de la profession de journaliste est une réalité au Burkina Faso?
Bon, si des journalistes, par exemple, à travers des réseaux sociaux sont menacés, on en a vu pas plus tard qu'aujourd'hui, on a vu que le groupe Omega, un journaliste du groupe Omega a été menacé de mort. On a également vu que le directeur général a été menacé de mort. Le groupe lui-même a menacé d'être incendié. Mais ça, ce sont des cas extrêmement graves qui n'existaient pas dans ce pays. Si bien qu'il faut les dénoncer de manière vigoureuse. Le contexte souvent est assez compliqué. Mais les régulateurs, on a vu que ça ne fonctionnait pas comme il le fallait. C'est des situations auxquelles il faut trouver des solutions immédiatement. Et nous en appelons également aux autorités de transition pour que le Conseil supérieur de la communication puisse fonctionner normalement.
Avec cette montée de violence verbale et diverses menaces dont les journalistes font l'objet, que dit RSF?
Nous encourageons toujours, par exemple, les journalistes, à chaque fois qu'il y a des menaces, de porter plainte. Je pense que pour le cas du Burkina Faso, le problème ne se pose pas. Généralement, les associations fêtières dénoncent toutes ces menaces-là, mais que les autorités également ouvrent des enquêtes, comme c'est le cas récemment avec Newton Ahmed Paris, celui qui le menaçait a été identifié, après présenté devant un juge et condamné. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Après, ça va dissuader d'autres de pouvoir menacer les journalistes.
Justement, sur la menace de l'intégrité physique des journalistes et des organes de presse, des gens qui tapissent dans l'ombre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation et qu'est-ce que ces personnes recherchent finalement?
Il se pourrait qu'il y ait des puissances disons, entre guillemets, des puissances d'argent ou bien des puissances économiques ou bien même des puissances politiques qui pourraient être derrière ces menaces. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des menaces, il faut essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce qui peut être derrière. Et il se peut que même que ça ne soit peut-être pas ces puissances-là ou bien ces lobbies, mais que ça soit juste un citoyen qui n'est peut-être pas content un peu de la manière ou bien d'une ligne éditoriale. Mais les lignes éditoriales, généralement, sont assumées. Maintenant, il est évident que c'est relativement nouveau d'après ce que nous observons, surtout dans le cas du Burkina Faso, mais s'il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a d'autres pays aujourd'hui où des journalistes sont pratiquement menacés. Il y a des menaces en ligne parce qu'ils lisent votre article de presse et après ils font des commentaires qui vous menacent directement. Ça pose fondamentalement la question de la sécurité des journalistes. Et quand on parle de sécurité, on ne parle pas de sécurité physique simplement. De plus en plus, il y a la sécurité physique, mais il y a aussi la sécurité digitale. C'est extrêmement important que les journalistes puissent avoir un peu les réflexes nécessaires pour se protéger online, comme on dit en ligne, mais pour également se protéger sur le plan physique avec de petites formations des organes de presse de faire, avoir un peu des protocoles de sécurité dans les rédactions. Par exemple, en partant au travail, on évite certaines routines. Tous les jours, on passe par l'avenue Kwame Nkrumah, par exemple. Bon, peut-être aujourd'hui, je vais passer par une autre avenue, Wari Boumediene, des choses comme ça, pour ceux qui sont à Ouaga. Donc, il faut de plus en plus développer cela. Mais les lignes éditoriales sont des lignes assumées. Généralement, il y a ce qu'on appelle des clauses de conscience qui font que pratiquement quand un journaliste ne se retrouve pas du point de vue de la ligne éditoriale de son média, il a la possibilité de partir. Mais tout cela ne doit pas dévoyer la qualité du journalisme. Il faut rester journaliste et c'est extrêmement important. Et le journalisme, c'est celui qui va à la collecte de l'information, qui la traite de la manière la plus équilibrée, la plus indépendante et qui la diffuse à l'opinion. Et c'est cette opinion-là se fera son propre jugement, sa propre religion. Ça, c'est extrêmement important. Le journalisme en soi doit rester au Burkina, y compris partout dans le continent et dans le monde.
Merci, Sadibou Marong.
Je vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.